Nathalie Tomasini, avocate au barreau de Paris. J'exerce déjà depuis une trentaine d'années et j'ai entendu dédier mon activité professionnelle à la défense des femmes victimes de violences conjugales et également aux enfants victimes de violences intrafamiliales.
L'affaire Alexandra Richard est le sujet principal de cette interview. Pourquoi cette affaire est emblématique d'un déni de justice pour Alexandra?
Un déni de justice, je n'irai pas jusque-là. En revanche, cette affaire démontre des dysfonctionnements multiples dans la chaîne et le parcours police-justice qui n'ont pas aidé Alexandra Richard. Alors, quels sont-ils ces dysfonctionnements? D'une part, son ancien concubin, la victime, il faut le savoir, était un homme violent et dangereux depuis ses 19 ans. Il avait tenté de tuer à l'époque un rival. Cette tentative d'homicide avait été requalifiée et il n'avait fait finalement que 10 mois de détention. Dans le dossier, il y a également des éléments qui démontrent qu'Alexandra Richard a déposé plainte contre son concubin violent, et ce n'est pas tous les jours dans les dossiers d'homicide conjugal que nous avons des dépôts de plainte. Là, il y a dépôt de plainte et encore une fois dysfonctionnement, puisqu'il y a eu une médiation pénale qui a été ordonnée par le parquet. Or, l'on sait très bien, depuis la Convention d'Istanbul et encore aujourd'hui depuis une loi récente de juillet 2020, que les médiations pénales sont proscrites dans les affaires où il y a un contexte de violence conjugale. Et enfin, autre élément qui démontre un dysfonctionnement notable, c'est l'existence d'une information préoccupante dans ce dossier. L'assistante de la psychologue scolaire avait été alertée par les déclarations d'une des filles d'Alexandra qui avait évoqué la violence de son beau-père, lequel menaçait quotidiennement sa mère de la tuer, de la faire disparaître. Et cette information préoccupante n'a jamais été suivie des faits. Le juge des enfants n'a jamais été saisi. Les enfants n'ont pu être auditionnés. Donc là encore, on voit bien que l'ensemble des dysfonctionnements n'a jamais freiné ce parcours qui a conduit au passage à l'acte d'Alexandra Richard. Et évidemment, cette femme aurait dû être aidée dans le cadre de tous ces événements que je viens de vous citer, ce qui n'a pas été le cas.
Que peut-on faire pour venir en aide à Alexandra Richard? Des pétitions, des manifestations? Je crois que Oser le féminisme suit cette affaire.
C'est compliqué parce que j'ai toujours pensé que, en alertant la société civile, ces femmes, qui certes ont tué, mais ont tué pour ne pas mourir, sont donc des victimes et que, en qualité de victime, la société civile devait être alertée, pour, qu'elles puissent avoir à minima une peine, mais une peine clémente. Or, aujourd'hui, je m'aperçois que les magistrats ne supportent pas, ne supportent encore moins qu'à l'époque de Jacqueline Sauvage, la médiatisation, d'une affaire. Et récemment, Alexandra, Richard a fait une demande de libération, demande qui n'a pas été, accueillie favorablement, par la Chambre de l'instruction, qui a rejeté cette demande en évoquant un trouble à l'ordre public et en s'appuyant sur une médiatisation excessive qui pouvait justement entraîner ce trouble à l'ordre public. Alors moi, j'irais jusqu'à dire qu'aujourd'hui, cette décision de refus de remise en liberté d'Alexandra Richard, c'est précisément cette décision qui fait trouble à l'ordre public. Parce que finalement, Alexandra n'a rien fait d'autre que d'évoquer, dans le cadre notamment des débats en cour d'assises, l'existence d'une pétition qui a été initiée par un de ses amis et collègues et qui n'est donc pas à son initiative. Alexandra Richard, encore une fois, a été victime d'un malentendu parce que dans la décision de la chambre d'accusation a été évoqué le fait qu'un comité de soutien aurait manifesté pendant les débats au mois de novembre. Il n'en est rien, il n'y a pas de comité de soutien qui a été créé, qui existe en réalité. Il s'agissait tout simplement d'une association féministe de femmes qui manifestait dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc si vous voulez, moi je pense que il y a un amalgame qui a été fait aujourd'hui. Et ça, je peux le comprendre, en tout cas l'entendre. Les magistrats estiment qu'il ne doit pas y avoir de tribunal médiatique et que la justice se rend dans les tribunaux. En revanche, il est clair que Alexandra Richard ne peut pâtir d'une médiatisation à l'époque de la libération de la parole des victimes. Alexandra Richard avait réuni l'ensemble des garanties de représentation qui lui permettaient précisément d'assurer cette liberté, cette demande de liberté, sans trouble à l'ordre public précisément. Et finalement, le seul élément qui était à la disposition de la chambre d'accusation pour refuser cette demande de libération a été l'évocation du trouble à l'ordre public, alors que très sincèrement, il n'y avait pas lieu de refuser cette demande de liberté et surtout, surtout sur ce fondement.
Pourquoi ne reconnaît-on pas la légitime défense ? Le cas Adriana Sampaio avait laissé espérer qu'il fasse jurisprudence. La justice n'a-t-elle rien appris depuis Jacqueline Sauvage ?
Réponse non. La justice n'a rien appris depuis Jacqueline Sauvage. Je dirais que la société a pris conscience des violences faites aux femmes et du fait que certaines n'ont d'autre choix que de tuer pour ne pas mourir. Mais je dirais que cela ne s'est pas traduit concrètement et surtout ne s'est pas généralisé à la fois dans les outils, les textes de loi. Non, on est encore loin du compte, on a fait des progrès, mais encore une fois, il faudrait un financement conséquent pour lutter contre les violences conjugales et surtout une véritable formation des magistrats, des experts judiciaires, des policiers, ce qui n'est toujours pas le cas aujourd'hui.
S'agissant du dysfonctionnement de la justice, quels sont selon vous les obstacles ? Faut-il changer les lois ou sont-elles mal appliquées ? Pourquoi, alors que la société semble quand même évoluer, les magistrats semblent-ils ignorants des mécanismes d'emprise de la violence conjugale et culpabilisent-ils les femmes victimes ?
Je reprendrai les arguments que j'ai évoqués précédemment. Les magistrats ne sont pas formés, en tout cas pas suffisamment, à la fois sur la notion d'emprise, sur les notions de stress post-traumatique, ne comprennent pas qu'effectivement ces femmes ne peuvent pas raisonner comme vous et moi. Ce sont des femmes qui, violentées pendant des années, n'ont plus la faculté de prendre une décision raisonnable. Il a été démontré par certains psychiatres et neurologues que certaines zones de leur cerveau ne fonctionnent plus, apparaissent d'ailleurs dans les imageries médicales comme totalement obscures et opaques. Donc, les magistrats aujourd'hui fonctionnent sur des postulats, des raisonnements qui sont obsolètes et qui ne sont pas du tout raccord avec les évolutions scientifiques et avec l'évolution de la société. Donc oui, il faut changer les lois, il faut les adapter à des contextes particuliers où les femmes sont violentées depuis des années et où elles peuvent être victimes de ce qu'on appelle le syndrome de femme battue.
Qu'en est-il des peines encourues par les agresseurs? Sont-elles justes et effectives?
Les peines concernant les agresseurs sont encore minimisées. Il y a un gap évident entre les textes et leur application. Sachant que pour des violences conjugales, la condamnation qu'encourent ces hommes violents est de 5 ans et 10 ans. Aujourd'hui, on a encore beaucoup de simples sursis, de condamnation à 1 mois, en tout cas quelques mois avec sursis. Et je ne parle pas des dommages et intérêts s'agissant du préjudice des victimes qui sont extrêmement insuffisants et qui, pour ma part, n'ont pas vraiment de sens eu égard aux séquelles de ces victimes qui vont perdurer pendant des années, voire pendant toute leur vie.
S'agissant des victimes, qu'en est-il de leur protection en amont et de leur prise en charge? Ordonnance de protection, bracelet anti-rapprochement. Y a-t-il eu malgré tout des avancées grâce au Grenelle?
Oui, là, je répondrai positivement à cette question. Il y a eu des avancées. Clairement, s'agissant de l'ordonnance de protection, on est passé de la notion de délai raisonnable pour les obtenir à un délai de 6 jours. J'ai d'ailleurs travaillé sur ce texte avec Aurélien Pradier s'agissant de la loi du 28 décembre 2019. Donc, c'est évident qu'il y a eu une avancée significative, notamment avec les bracelets anti-rapprochement, puisque précédemment, ces hommes étaient très souvent placés sous contrôle judiciaire, qui n'étaient pas du tout efficaces et qui ne les empêchaient pas d'approcher malgré tout ces femmes et de les violenter à nouveau, voire les tuer. Les supprimer. Or, avec ces bracelets anti-rapprochement qui existent quand même, je le rappelle, en Espagne depuis 2004, c'est une vraie sécurité pour ces femmes. Donc oui, nous avons fait des progrès, mais il reste beaucoup à faire et j'espère qu'on va aller un peu plus vite parce que ces bracelets anti-rapprochement, finalement, devaient être généralisés depuis le 31 décembre dernier. Je dois dire que d'une manière pratique, nous avons demandé pour une de nos clientes, dont le 94, un bracelet anti-rapprochement. On nous a répondu qu'il n'y en avait pas.